Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti donc pour ce nouveau numéro 2. Les Matchs de ma vie, avec moi Darren Tullett et notre invité qui est aujourd'hui qui est...
Greg Paisley.
Yes, Gregory Paisley, comme diraient les Français. Greg Paisley, comme moi je dis.
Comme dirait Darren. Exactement, Darren. Tu es le seul. Non, j'aime beaucoup.
Greg Paisley, Mr. Paisley. Un petit mot de présentation pour ceux qui ne te regardent pas, qui n'ont pas la chance de t'écouter commenter les matchs sur beIN Sport et qui ont forcément donc tort. Ancien joueur défenseur de Paris Saint-Germain, du Stade Rennais, de Le Havre, de Sochaux, Metz, Troyes, Strasbourg. Je ne sais pas ce que tu avais contre Mulhouse. Puis de l'OGC Nice et de l'En Avant Guingamp. Tu as fait comment déjà, Greg, pour te limiter à 5 matchs seulement? Ça a été dur?
C'était très compliqué. C'est pour ça que je ne suis pas passé en premier d'ailleurs. Mais oui, j'ai dû trier, mais je les ai quand même trouvés.
Le temps de la réflexion, ouais. Parce que oui, moins de matchs que de clubs où tu as joué. On va en parlant parce que sans plus attendre, c'est parti. Pour les matchs de la vie de Greg Paisley, match numéro 1, Greg, quel est ton choix et pour quelle raison?
Alors, mon premier match sera un match de catégorie poussin. En 1986.
En 86, tu as donc 9 ans.
Ouais, exactement. Oui, premier match avec pas le premier, mais avec le Paris Saint-Germain.
Donc tu es déjà avec le Paris Saint-Germain.
Oui. Alors je vais pas oublier la jeunesse sportive de Pantin, dont j'ai fait une petite année juste avant, parce que j'habitais à Pantin avec mes parents.
On salue les Pantins.
Les Pantinois.
On dit Pantinois ?
Ouais, très bien.
Ah, je me souviens bien.
T'es bon, Darren. T'es très, très bon. Je ne suis pas étonné. Et du coup, oui, difficile de ne pas parler de ce match de Coupe de France, BN. Bon, j'ai le droit de dire une petite marque quand même, oui. Parce que c'était la vache qui rit l'année d'avant. Donc du coup, il y avait toujours un sponsor sur les Coupes de France de jeunes.
Tu parlais aux enfants déjà.
Exactement.
Okay, je vois.
Okay. Et du coup, c'était un petit peu le parcours du combattant, cette Coupe de France. Ça commence au niveau régional, après départemental, enfin voilà, à tous les niveaux. Et on se retrouve sur un gros plateau avec les meilleures équipes de France. Et tu joues ta qualification dans des matchs de poule. Malheureusement, on a perdu le match qu'il ne fallait pas.
Ah.
Et donc, on n'a pas pu accéder à la finale.
Perdu contre qui?
Faut pas le dire, contre l'OM.
Oh, en plus.
Ah, ça fait très mal.
Ouh là là, d'accord.
Ouais.
Ouf. OK, et donc on se retrouve...
Pour ce match de 3e, 4e place,
d'accord.
Avec la chance de jouer en levée de rideau du match de Coupe de France, qui était Bordeaux-Marseille à l'époque.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc, on en avait plein les yeux. C'était magnifique comme
au
souvenir.
Parc des Princes. Au
Parc des Princes. Donc, c'était football à 7.
D'accord.
Donc, on jouait sur la moitié de terrain.
Ok,
donc,
je vois très bien.
Tu avais la finale
d'un
côté, et puis la 3e, 4e place pour nous de l'autre côté.
Extraordinaire.
Ouais. Et franchement, c'était un souvenir magique. On jouait contre Calais.
Uh-huh.
Grosse surprise aussi de retrouver Calais à ce
en
niveau-là.
Ouais. Pour le troisième, quatrième place. Et alors?
Et du coup, on s'impose 6-1.
Uh-huh.
J'ai mis 4 buts.
C'est Greg Paisley qui marque un quadruplé au Parc des Princes.
Exactement. Tu vois, ça sentait bon déjà. Hein.
Oui.
Bon, parce que j'étais joueur offensif en fait quand j'étais petit.
Comme beaucoup de joueurs défensifs.
Exactement.
Vous avez tous commencé devant.
Et avec l'âge, on s'aperçoit que j'ai plus le niveau. Donc on dit, allez, va voir derrière comment ça se passe, ça sera mieux pour toi.
Waouh. T'as marqué 4 buts dans ce match pour prendre la 3e place alors.
Exactement. Et après, je le dis clairement, je pense qu'on avait la meilleure équipe de France à cette époque-là.
Wow.
Parce qu'on perd contre l'OM sur des trucs un petit peu bizarres, mais bon, c'est comme ça.
Super souvenir alors.
Mais super souvenir, le fait à 9 ans de fouler la pelouse du Parc des Princes, c'est extraordinaire.
Mais qui peut dire, j'avais 9 ans, je jouais au Parc des Princes devant beaucoup de monde parce que c'est un lever de rideau.
Exactement,
la finale quand même.
Devait y avoir franchement entre 15 et 20 000 déjà, parce que ça s'est vite rempli.
Et t'as mis 4 buts.
Et j'ai mis 4 buts, donc incroyable. Ça c'est un souvenir.
Il y a des traces de ça quelque part, t'as des photos d'un...
Photos j'ai, photos d'équipe, après des articles... Pas certain, il faudrait que j'aille voir chez ma maman. Peut-être qu'il y a des petites coupures
les mamans,
de presse.
Les mamans gardent ces choses-là.
Dans un classeur, il y a ce qu'il faut. Ouais. C'est un peu jauni, mais je pense que c'est toujours là.
Quadruplé au Parc des Princes, ça commence bien quand même. Donc, comment tu t'es retrouvé au Paris Saint-Germain à ce jeune âge-là?
Alors là, c'est aussi une petite anecdote intéressante. Je fais ma première année, Poussin première année à Pantin. Mm-hmm. Je crois qu'on gagne 2 matchs dans l'année, dont un par forfait.
D'accord. Okay.
Et du coup, mon entraîneur de l'époque dit à mon papa, ça serait intéressant de mettre votre fils dans un autre club, un peu plus costaud, en région parisienne.
D'accord, il voyait déjà que tu avais un certain niveau.
Oui, d'après ce que j'ai compris. Maintenant...
Pourquoi? Parce que toi, tu ne le sentais pas? Si, tu le savais.
Ouais, oui, mais quand tu perds tous les matchs le week-end, tu dis, est-ce que j'ai vraiment le niveau, en fait? Mais il est vrai que le seul match qu'on a gagné 1-0, j'avais marqué. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a, il y a peut-être un espoir. Et mon père me dit, bah, on va changer de club. Il y avait un autre club à Pantin qui était un peu plus fort. On est allé auprès des dirigeants et tout. Je ne sais pas, je ne le sentais pas. Alors, c'est marrant à cet âge-là déjà d'avoir un petit feeling.
Oui.
Le fait d'avoir discuté avec l'entraîneur, les dirigeants, ça ne me parlait pas du tout. Et j'ai dit à mon père, autant aller dans un plus gros club. Et j'étais déjà fan du Paris Saint-Germain.
Oui.
Alors, je n'avais pas conscience qu'on était complètement à l'opposé de Saint-Germain, parce qu'on habitait en Seine-Saint-Denis.
Oui, oui. Pantin, et c'est loin.
J'ai dit à mon papa, le PSG. Alors, il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit « Ok, mon fils, je vais me débrouiller pour te trouver la journée de détection et puis on va faire le nécessaire. »
D'accord.
Alors, j'essaye de la faire courte.
On a le temps, vas-y.
On a rendez-vous au camp des loges pour les détections. Le problème, c'est que mon papa se trompe d'horaire.
Oh zut.
Donc.
Ça commence mal.
Un mercredi, on devait avoir rendez-vous peut-être à 13h30 mm-hmm. et on arrive à 14h30 ou un truc comme ça.
Mm.
Du coup...
Dans quel état? Tu savais que tu étais en retard? Non.
Non, c'est en arrivant.
Ah, vous étiez là.
Nous, genre, on était sûrs. Oui, tout va bien.
Bon, on était sereins. Il n'y avait pas cet horrible stress, genre, tu savais... Non, ok. Donc, ouais, vous arrivez tranquille.
Puis, pour me stresser, Darren, il faut y aller.
D'accord.
C'est peut-être mon gène Guada. Tranquille. Pas trop vite le matin, tranquille l'après-midi et relax le soir. Du coup, un des dirigeants nous dit... La détection pour l'âge de votre fils est passée, mais par contre, il y a encore toutes les détections qui continuent pour les catégories d'âge d'après. Et on lui dit, mais c'est quel âge? Alors, c'est pupille, première année, deuxième année. Et moi, je passais juste poussin, deuxième année seulement. Mmh. Donc, c'était avec des enfants qui avaient 2 ans de plus.
D'accord. Aïe.
Et là, je regarde mon père, je lui dis, banco, on n'est pas venu ici pour rien, c'est pas grave, j'y vais, on y va. Puis c'est avéré que même avec ceux qui avaient 2 ans de plus, j'étais un petit peu au-dessus aussi.
Waouh, ok.
Donc ils m'ont pris direct et puis l'aventure a commencé. Voilà, le pourquoi du comment.
Super.
Ouais, la petite anecdote.
Ça. Donc un petit mot sur ton papa alors.
Mon papa, écoute, il n'est plus de ce monde depuis 4 ans. Donc écoute, ça fait partie de la vie. Voilà, j'ai ma maman qui est encore présente et voilà, je fais le maximum pour elle. Donc, toujours là. Mais il est vrai que ma mère était un peu réticente par rapport au fait que je joue au football.
Oui.
Ça veut dire, t'enlèves ton fils tous les week-ends, le mercredi. Enfin, voilà, j'avais fils unique, je suis, donc...
Et les études.
Mère poule.
Ouais.
Exactement.
Oui,
c'était exactement ce message-là.
Mais vous avez pu trouver un bon équilibre, alors?
Alors, pour te dire, les concessions et les sacrifices qu'ont fait mes parents à mon égard ont été énormes. C'est pour ça que mon papa, je ne le remercierai jamais assez, ainsi que ma mère, bien évidemment. Mais ils m'ont toujours accompagné. Ils ne m'ont jamais forcé, mais m'ont toujours accompagné dans ma démarche et cette volonté de vouloir faire une carrière.
Parce que là, c'est effectivement de là où tu habitais, de là où tu allais entraîner et jouer. C'était loin, fait ce trajet tout le temps.
Et bien, la première année...
Exactement. C'est un soutien
énorme. La première année... alors, je vais peut-être en choquer certains, mais de Pantin, je prenais le métro tout seul.
Oui.
À l'âge de 9 ans.
Wow.
J'allais rejoindre mon papa qui travaillait sur Paris.
Oui.
Lui, il prenait tous ses mercredis après-midi, parce qu'on s'entraînait qu'une seule fois à cet âge-là, plus le match le dimanche. Donc, je rejoignais au bureau. Il m'accompagnait à Saint-Germain. Il assistait à l'entraînement et on rentrait à la maison.
Wow.
Donc, toute la première année, ça s'est passé comme ça.
C'est une belle complicité avec papa, alors?
Oui, parce que...
On a entendu parler des histoires de Thierry Henry. On parle très bien avec son papa qui était toujours derrière lui, mais un peu sévère, un peu dur avec lui.
Moi, c'était le paradoxe. Non, pas du tout. Peut-être limite trop relax.
Ah oui?
Oui, il m'a laissé gérer, sincèrement.
D'accord.
Il m'a responsabilisé très, très vite. Et c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est cette éducation que j'ai eue. Bon, ça a plutôt bien fonctionné, je pense, même si peut-être qu'à certains moments, il aurait fallu me mettre un petit coup pour,
ah oui,
ouais, pour me stimuler. Parce que
ça aurait pu te faire violence.
Oui, je pense.
Il venait d'où, papa, alors, et maman?
Alors, papa, né au Vietnam, avec la guerre, ouais, vers, à l'époque de la guerre d'Indochine. Donc, grand-père paternel guadeloupéen qui a fait la guerre pour les Français, qui a rencontré ma grand-mère paternelle au Vietnam, d'où la naissance de mon papa. Et à l'âge de 4 ans, ils sont tous rentrés à Paris.
D'accord.
Ils sont rentrés en France. Et voilà, l'évolution, ça, ils ont grandi à Orly. Enfin, toute la famille a grandi à Orly. Ma mère est née à Paris, enfin, pure parisienne. Et puis, bon, voilà, après, ils ont fait leur vie, se sont rencontrés. Il y a le petit Greg qui est né par la suite. Et, mais oui, voilà, famille parisienne.
Et fils unique, donc footballeur, soutenu à fond par papa qui prend de son temps pour être là pour toi.
Oui.
Et maman qui dit, n'oublie pas de faire tes études et tes devoirs en rentrant.
Elle m'aide, ma mère.
Et petit à petit, ça avance comme ça. Être fils unique, c'était comment? Je ne sais pas, parce que je suis l'aîné de 4 mois, donc c'est comment être fils unique?
Tu peux te sentir seul parfois.
Uh-huh.
Après, encore une fois, c'est le Paris Saint-Germain qui a créé mon histoire aussi en tant qu'homme.
Oui.
Parce que j'ai rencontré mon ami d'enfance, mon meilleur ami, la première année au Paris Saint-Germain. On est toujours en contact. Hein. Lui est entraîneur aujourd'hui à Furiani. Et je pense qu'il prendra un club pro dans pas longtemps. Parce qu'il est en train de passer son diplôme, le BEPF, si je ne dis pas de bêtises.
Donc on parle de
Patrick Videra.
On te salue bien.
Voilà.
Et donc, cette équipe devient un petit peu ta famille, en quelque sorte, on peut le dire, parce que tu as des potes dans ton équipe de foot, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Tu tisses des liens. Après, tu es jeune, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais tu as ce besoin d'être avec eux. Ouais. Tu es heureux d'aller à l'entraînement. Le week-end, c'est toujours la fête. Il y a toujours la pause sandwich, canette à la fin du match. Et puis, c'était un moment de partage.
Ouais.
Enfin, voilà, ce sont des années inoubliables. Et franchement, c'était magnifique.
D'où vient ton talent pour le foot alors, Greg?
Je ne sais pas.
C'est pas dans la famille?
Bah, écoute, c'est une famille de footballeurs.
Ah.
Sans que l'un d'entre eux n'ait percé. Parce que du côté de mon papa, ils étaient 8, dont 5 garçons. Mm-hmm. Maintenant, mon papa joue un petit peu au football, mais à un petit niveau. Bon, il pensait plus à faire la fête qu'à jouer au football. J'ai un de mes oncles qui a eu l'opportunité de s'entraîner avec Créteil, qui était en Ligue 2 à l'époque.
Oui.
Mais ça lui a pris la tête. Il a préféré jouer avec ses potes à Orly. Donc voilà, pas prédestiné à faire des carrières, mais j'idolâtrais mon oncle, qui jouait numéro 10 à l'époque.
Uh-huh.
Donc, j'allais le voir avec mon père. Je tannais mon père pour aller à Orly et aller voir les matchs.
Oui.
Donc, enfin, voilà, j'ai baigné dans le football tout petit. J'ai tapé dans le ballon à l'âge de 14 mois sur la plage.
D'accord, déjà, ça a commencé très
jeune. Ouais. Donc, et puis pied gauche. Donc, ça, t'as un petit truc en plus, quand même.
Petit gaucher. Et donc, non, c'est quand même intéressant parce que parfois, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'on a un talent pour quelque chose. Mais toi, déjà à 9 ans, t'es au Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose quand même pour toi, mais... Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un joueur pro, évidemment, parce que tu dois en connaître beaucoup de cette époque-là qui n'ont pas percé. Mais est-ce qu'il y en avait de cette génération autour de toi que nous, on va avoir en tête des joueurs qui ont été pro?
Non, c'est un peu plus tard. Il y a mon frère d'adoption, Pat, qui, lui, a fait sa petite carrière. Il a joué un tout petit peu en Ligue 1 au Portugal, parce qu'il a pas eu l'opportunité de signer pro Paris Saint-Germain, donc il a la double nationalité franco-portugaise, donc il est parti au Portugal, et il a joué après en Ligue 2 ici en France, à Martigues, à Rodez, à Nîmes, et ça c'était un tout petit peu plus tard, à l'âge de 14-15 ans, où notamment dans ma génération, en moins de 15, on est pas mal à être sortis pro, comme Pierre Ducrot, Didier Domi, enfin voilà, il y a eu du beau monde.
C'est pas évident de devenir footballeur professionnel quand on pense que le taux de réussite est très, très, très bas, effectivement. Donc, te voilà, Greg, petit joueur de Paris Saint-Germain à l'âge de 9 ans, marquant un quadruplé au Parc des Princes en un match de levée de rideau et tout ça, contre Calais, 3e de la Coupe de France cette année-là. Ça commence bien, cette histoire. Allez, match numéro 2. 7 ans plus tard maintenant, encore au Parc des Princes. Encore un match mythique, un quart de finale de la Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Pour quelle raison ce match-là?
Tout était réuni. Alors, ce n'est pas propre aux supporters parisiens, je pense. Je pense que c'est le supporter français dans sa globalité. J'ai enlevé peut-être les Marseillais. Mais je pense que tout le monde se souvient de ce match. Mm-hmm. Et quand tu es un enfant du club, que tu idolâtres les joueurs qui sont en train de jouer, et tu suis cette épopée européenne. Alors, c'était la Coupe UEFA, ce n'était pas la plus prestigieuse, mais ça reste une Coupe d'Europe.
Ouais.
Et tu joues le Real Madrid. Après le scénario du match aller où tu perds 3-1, tu dis, bon... En étant français, tu sais que tu as du mal à gagner certaines rencontres.
Oui,
tu vois, enfin, tu vois que du noir quelque part. Et tu te dis, bon, on espère créer l'exploit. Et l'exploit a lieu parce que c'est un match exceptionnel et tous les ingrédients sont réunis.
Tu avais 16 ans, tu étais où? Tu as regardé ce match?
J'étais à la maison avec mon papa. Je n'avais pas pu aller au parc
ouais.
parce que bah, les places étaient très prisées. Et j'étais à la maison et je n'ai pas raté une seconde. Et... Je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai autant crié devant ma télé.
Ah oui.
On aurait dit un cinglé. Je crois que les voisins ont entendu, mais bon, c'était pas gênant, c'est pas grave.
Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que tu étais jeune joueur de Paris Saint-Germain à cette époque-là. Tu y regardais le match à la maison avec papa et c'était forcément sympa. Jeune Anglais qui venait d'arriver à Paris quelques 3-4 ans avant, j'étais au stade ce soir-là.
Ah, c'est magique.
J'ai oublié d'amener le ticket pour te le montrer. Derrière le but, ou en plus en seconde période, le Paris Saint-Germain marque les buts de la victoire. Parce que j'étais côté Boulogne sans savoir ce que ça voulait dire. Et sans savoir que j'allais recevoir plein de trucs sur la tête pendant toute la rencontre. Mais bon, revenons sur le match. Parce que moi aussi, j'ai des souvenirs de ce match extraordinaire, effectivement. Perdu 3-1 à l'aller. George Weah qui marque en première période. Et c'est vrai que en dehors des Marseillais... Les autres en France ont peut-être, les supporters, ont apprécié cette équipe pour certains joueurs qui étaient vraiment des petits chouchous. George Weah, effectivement. Mais il y avait Ginola, il y avait Valdo, il y avait... enfin, tu as tous les joueurs en tête, j'imagine. Bernard ouais. Lama dans les buts.
Ah, je te donne le 11. Hein, si
vas-y,
tu
vas-y, viens. Vas-y.
Bernard dans les buts.
Yes.
À droite, Jean-Luc Sassus. Ricardo Comboiré, parce qu'Alain Roche était suspendu ce jour-là. Colter à gauche.
Oui.
Le Gouen,
est-ce
qu'il y avait... Attends, c'était Vincent ou Lolo Fournier?
Vincent.
C'était Vincent. Vincent Guérin. Et après, je sais qu'il avait mis 4 joueurs offensifs avec Valdo,
oui.
Ginola,
oui.
Wea et oui. Amara.
Et Amara Simba.
Ouais.
Effectivement. Bien, tu vois, tu as toujours tout ça en tête. Mais il y a seulement 1-0, il reste 10 minutes à jouer. Et c'est là où David Ginola marque d'abord, Valdo... marque juste avant la fin. À ce moment-là, 3-0 et 89e, Paris est qualifié. Sauf que non, temps additionnel.
Zamorano
marque. Il y a tout à refaire. Prolongation, on se dit.
Ouais.
Mais non.
Monsieur Poul, cet arbitre a laissé jouer encore quelques minutes. Il y a un coup franc qui, pour moi, je pense qu'il n'y a pas coup franc en plus sur David Ginola.
En plus.
La faute, elle est très légère. Puis derrière, bah, ça appartient à l'histoire. Antoine qui arrive, parce que quand tu as la télé, tu ne vois pas forcément Antoine dans la surface. Et il sort de l'écran comme ça. Pfiou. Et là, il vient mettre son coup de tête décroisé. Exceptionnel. Le 4-1. Et, c'est magique.
Et là, le stade explose et le petit Greg Paisley sur son canapé, il explose aussi.
Il a explosé. Il a roulé par terre. Il était partout. Donc, non, mais c'était extraordinaire.
Ouais.
Et c'est là où tu t'aperçois que le sport est un vecteur d'émotion assez incroyable.
Mm.
Donc, ce n'est pas spécifique au football, mais le sport en général t'apporte un sentiment assez hallucinant. Et parfois, c'est incontrôlable. Mais bon, c'est ça la vie.
Et c'est vrai que dans la mémoire collective, on se souvient de ce but de la tête d'Antoine Comboiré, effectivement, qui joue à la place de Roche, Alain Roche.
Ouais.
Et on se souvient aussi de Michel Platini au commentaire qui annonce le but.
C'est vrai.
Juste avant que le coup franc soit tiré.
Oui, mais c'est hallucinant. Mais voilà, je pense que c'était écrit.
Ouais.
C'était écrit.
Extraordinaire. Et toi, 16 ans à ce moment-là, t'en es où avec le Paris Saint-Germain?
Je suis stagiaire,
mm-hmm.
Ouais, du classique. Je suis au centre de formation.
T'as l'impression que tu vas devenir pro? Tu es confiant?
Ouais, c'est un peu l'année charnière. Il est vrai que t'as encore les moins de 17 nationaux. Après, tu bascules. À l'époque, on avait encore la Nationale 3, la Nationale 2, plus après l'équipe pro. Donc, l'équivalence de la D3 et la D4.
Mm-hmm.
Et non, je suis mon cursus classique, sans me prendre la tête.
Tu n'es plus attaquant?
Non, je suis déjà défenseur. Je suis latéral gauche déjà, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et donc, tu espères percer, mais tu es confiant à 16 ans?
Oui, parce que T'es obligé, sinon tu prends tes clics et tes claques.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis entendu poser la question. Ouais. Ouais. Si t'es pas confiant,
si tu n'y crois pas, c'est pas possible.
Ouais, ouais. C'est ça.
Après, tu es conscient de la situation.
Ouais.
Tu arrives à un âge où tu te dis, bon, faut que je mette tous les atouts de mon côté. Donc, beaucoup de travail, quelques sacrifices aussi. Parce que 16, 17, bon, voilà, tu commences à fricoter, tu commences à vouloir sortir. Enfin, voilà, tu as les petits vices qui arrivent très vite. Ouais. Surtout quand tu habites à Paris. Mais... voilà, encore une fois, je répète, j'ai une éducation qui m'a permis de garder la tête sur les épaules. Et puis voilà, j'étais bien entouré. Donc à partir de là, c'est toujours plus simple.
Match numéro 3, on est en 1998 désormais et on se retrouve en Suisse où tu joues pour le Servette Genève, donc c'est 5 ans plus tard. Tu as choisi un match de cette saison 97-98 contre Sion. Une victoire par 2-1 pour votre équipe de Servette. Pourquoi avoir élu cette rencontre-là?
Alors, ce match-là, parce que c'est mon premier but en pro. Alors, il y a eu des matchs amicaux où tu marques. Enfin, voilà, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Mm-hmm. Mais celui-ci, pour un match officiel, ça m'a marqué. Parce que, alors, pour resituer les choses, je suis prêté par le Paris Saint-Germain au Servette de Genève. Il y avait cette synergie Canal+. Entre les deux clubs, donc je suis le premier, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je suis le premier joueur à être prêté du PSG au Servette.
D'accord.
Et j'y vais à partir du mois de janvier. Alors, il faut savoir qu'au Servette, tu as un premier tour de championnat, et ensuite, tu as des play-offs. Et je suis arrivé à cette période-là, au moment des play-offs, donc sur les matchs les plus importants. Donc, c'est super intéressant. Et d'un commun accord, on a souhaité mon prêt parce que je jouais en National 2. Je m'entraînais avec le groupe pro, mais je ne jouais pas. Mmh. Donc, comme chacun sait, souvent, les jeunes joueurs sont amenés à être prêtés pour s'aguerrir et gagner un petit peu d'expérience. Ce fut le cas pour moi.
Tu as marqué ce but?
Ouais, j'ai marqué ce but, mais ce n'est pas un but anodin. Parce que, pour refaire un petit peu l'histoire, on jouait dans un système en 3-5-2. J'étais piston gauche, donc un poste nouveau pour moi. Mais on jouait déjà en 3-5-2 à l'époque, en 98. Et au bout d'une dizaine de minutes de jeu, je me déchire, je me troue. Il y a un ballon à l'opposé, il y a un centre dans la surface. Moi, je veux dégager avec mon pied droit, mais comme chacun sait, mon pied droit, il ne sert pas à grand-chose. Et là, je relance plein axe, quasiment sur l'attaquant, qui contrôle, qui met une mine, 1-0 pour Sion.
Aïe.
Je fais waouh, 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 waouh.
Pas de bol.
Ouais, c'est compliqué. Et là, tu te dis, mentalement, il faut être solide. Parce que je viens de faire une bourde. Tu es tout jeune, tu viens d'arriver au Servette, tu es censé être une plus-value parce qu'on demande ton prêt. Donc, tu es là pour amener quelque chose quand même. Et moi, je suis en train de faire le contraire. Et je me souviens, il y a eu un laps de temps, peut-être une ou deux minutes. Je me suis dit, waouh, Greg, tu es dans l'apprentissage, mon gamin. Mais il va falloir redresser la barre très, très vite. Quoi. Donc, mentalement, j'ai switché positivement. Et je crois qu'il y a, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a un but à la 12e minute pour Sion. Et moi, peut-être à la 16e ou 17e minute, il y a un corner pour nous, ou un coup franc. Ça va dans la surface. Moi, je reste en retrait. Je suis à 30 bons mètres en retrait. Le ballon est dégagé de la tête. Le ballon revient et je me pose pas de questions. Je la reprends en demi-volée. Bam! Et là, je mets une mine.
Ouh,
et elle part pleine lucarne. Ah, extraordinaire. Et j'ai jamais retrouvé ce but.
Ah
mon grand désarroi.
Ah, on ne peut pas le retrouver?
Je ne sais pas.
Ah,
je ne sais pas. Alors,
on va contacter le club.
Tous ceux qui écoutent le podcast, s'il vous plaît, faites la démarche de pouvoir retrouver ce but.
Oui, envoyez-nous ce but. Ouais, on a envie de le voir.
C'est un but fantastique.
C'est le meilleur but de ta carrière.
Ouais, c'est le plus beau.
Ouais.
La frappe, elle est fantastique.
Oh. Et, bien rattrapé la bourre.
Bien rattrapé, exactement. Hein? Donc, un partout. Et derrière, bon, bah, ça va, le match se passe plutôt bien, on gagne 2-1 et la bourde passe un petit peu à l'as. Si moi, je ne la rappelle pas peut-être aujourd'hui, il y en a, ils ne s'en souviennent même pas.
Ouais, ouais.
Moi, ça m'a marqué parce que...
Oui, ça reste. Ça reste.
Ça reste. Mais voilà.
Non, mais tu vois, je n'ai pas pu retrouver les buts, effectivement, mais j'ai vu la feuille de match. Il y avait un jeune Patrick Müller qui, par la suite, a joué pour l'OL.
Exactement.
Ouais, Müller. Bon défenseur.
Ouais. Ouais. Il était là. Non, il y avait des joueurs de qualité.
Franck Durix.
Oui. Franck.
Qui était là, je me souviens de lui aussi.
Ah, qui était à la SCAN.
Bon joueur. Ouais.
Ouais, très, très bon joueur.
Ouais.
Et des bonnes personnes. Donc, non, c'était une très, très bonne expérience.
Ah, Patrick Müller, c'était sympa. Je l'avais croisé un jour après un match à Lyon
ouais.
Où il jouait. Et j'étais journaliste, je ne sais pas ce que je foutais là. Mais bref, sur le parking après le match, Patrick Müller qui vient me voir. Ça m'a marqué parce que j'étais toujours... Peut-être c'était encore nouveau à la télé et tout ça. Et Patrick Müller qui vient vers moi pour me dire... Est-ce que je peux avoir un autographe ? C'est pour ma femme qui t'adore.
C'est génial.
Patrick Müller. Moi, je dis, mais non, mais je devrais... c'est moi qui te demande un autographe.
Non, mais
Patrick
non, mais comme quoi, t'es une star, mon Darren. Non, je ne suis pas étonné. Incroyable. Je ne suis pas étonné, mais non, c'était un super
Il choix. Était super mignon, lui. C'était très sympa, un bon gars. Ouais.
Un petit peu décalé, mais très bien. Ouais, il ne se prenait pas la tête.
Ouais.
C'est ce qui a fait sa force aussi.
Bah, très bien. Ouais. Et donc, ça t'a fait du bien, ce passage par la Suisse ou pas ?
Oui, parce que c'est 6 mois, enfin, même pas 5 mois. M'ont permis d'arriver à Paris avec pas un autre statut, mais le fait d'avoir déjà évolué dans le monde professionnel, même si ça reste le championnat suisse, sans le dénigrer, c'était toujours plus intéressant que la Nationale 2 en France. Donc, dans mon évolution, c'était plutôt intéressant. Mmh. Et le premier match va venir sur la saison d'après assez rapidement. Par rapport à cette expérience.
Ça t'a fait du bien, ouais. T'as marqué ce but mythique que personne n'a vu, mais on va le retrouver. Effectivement, tu reviens et tu vas jouer pour le Paris Saint-Germain. On va en parler dans un instant. Vous écoutez Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Greg Paisley, mais juste avant, petite question à côté, Greg, parenthèse en quelque sorte. En préparant notre rendez-vous, là, j'ai vu que tu étais, à un moment donné, tout prêt de signer pour l'OM. Vrai ou pas ? Et comment t'aurais fait en tant que Parisien pour jouer pour Marseille ?
Alors, il est vrai. Il est vrai qu'il y a eu cette possibilité.
Un peu plus tard. Hein.
Quand j'étais à 3, ouais. Il y avait prescription. Hein. Mais j'étais à 3, il est vrai. On venait de descendre de Ligue 1 en Ligue 2. Et l'OM recherchait un latéral gauche, pouvant jouer dans l'axe aussi, parce que je commençais un petit peu à jouer en tant que défenseur central. Et mon nom était coché, j'ai été sollicité, mais ça ne s'est pas fait parce que Troyes voulait un peu trop d'argent à l'époque. Et puis voilà, ça s'est donc arrêté là.
Mais le petit gamin parisien, il aurait pu enfiler ce maillot sans problème ?
Avec la après, non, mais c'est vrai que c'était pas évident. J'aurais souhaité qu'un club qui joue la Ligue des Champions puisse venir me chercher, mais je ne pensais pas que ça allait être l'OM. Mais après, tu penses carrière ? Est-il mieux de jouer en Ligue 2 à 3 ou de jouer la Ligue des Champions avec l'OM ? Je pense que le choix est vite fait, mais de toute façon, je ne me pose même plus cette question, puisque ça ne s'est pas fait.
Non, je rigole à moitié, parce que en plus de cette époque, beaucoup de joueurs ont switché entre les deux clubs. C'est assez rigolo quand on y pense, parce qu'il y avait une énorme rivalité dans les années 90 surtout.
Ouais.
Et pourtant, plein de joueurs ont joué pour les deux clubs.
Bah, c'est clair. Fiorez, Déhu, Flo Maurice, Jérôme Leroy, Édouard, si c'est par la suite.
Oui.
Non, il y a eu beaucoup de joueurs. C'est pour ça. Après, je ne sais pas si c'est encore une grande signification.
Bien sûr que ça se fait. On est tous professionnels. On doit aller gagner notre vie quelque part. Hein,
mais je ne l'ai pas fait.
C'est une belle opportunité. Mais bon, tu ne l'as pas fait, effectivement. OK, match numéro 4. Donc. Nous sommes le 16 octobre 1998, toujours cette année 98. Quelques mois plus tard, donc après les aventures en Suisse, le Paris Saint-Germain joue contre l'Olympique Lyonnais. On est à Lyon. Et là, c'est ton premier match pro avec le PSG.
Oui.
Enfin. On a tenté de dire.
C'est exactement ça, Darren. Ouais. Enfin. J'attendais ce moment avec tellement d'impatience.
Ouais.
Et je pense qu'il est arrivé au moment où je ne m'y attendais pas forcément.
C'est
ça un petit peu le paradoxe. Alors, pour contextualiser un petit peu cette première, Alain Gérès, c'était entraîneur.
Oui.
Durant 3 mois.
Et Charles Biétry, président.
Exactement.
Celui qui a aidé à fonder cette chaîne de Beansport. On s'est retrouvés, effectivement. Donc, début de saison compliqué.
Début de saison compliqué. Élimination contre le Maccabi Haïfa en coupe. Mm. Enfin, voilà, des résultats pas à la hauteur de notre standing. Et changement de coach. Arthur Georges qui arrive début octobre.
Qui revient.
Oui.
Le Portugais qui nous a quittés récemment.
Exactement.
Avec sa moustache
mémorable.
Donc, lui, revient.
Avec son adjoint, fidèle adjoint, Denis Troche. Voilà. Donc, la moustache compagnie est de retour.
Oui. Et pour toi, ça veut dire quoi ?
Alors, ça veut dire retour d'Arthur Georges. Il ne se prend même pas la tête. Dès qu'il arrive au club, on part une semaine à Lézigny. En Seine-et-Marne, en stage, direct. Alors, on peut l'assimiler à un stage commando, mais en tous les cas, il voulait qu'on soit en vase clos, qu'on puisse travailler tranquillement. Donc, cette semaine se passe. Et sincèrement, même avant, je pense que... c'est difficile de revendiquer quoi que ce soit dans ce métier. C'est un sport de concurrence, etc. Mais j'étais très, très bien. Voilà. Je pense que j'étais prêt déjà pour jouer, dès le début de saison, pour jouer avec l'équipe première. Mais j'avais pas eu ma chance, tout simplement. D'où ma réflexion sur ce vécu. Pour moi, un coach fait la carrière d'un joueur. Si le profil ne plaît pas au coach, alors que tu es un très bon joueur, pourquoi tu as joué avec l'ancien entraîneur et tu ne joues pas avec le suivant et vice-versa? Bref, c'est comme ça que je vois les choses. Et après ce stage, on arrive au brief d'avant-match. On arrive à Lyon. Classique, paperboard. Il retourne la feuille. Et là, je m'y reprends à deux fois.
Comme dans les cartoons.
Exactement. Je vois Bernard dans les buts. Donc, OK, c'est bien l'équipe type hein, qui est alignée. Et je vois Pesley à gauche. Je fais « Wow !» Et en fait, j'ai Pierre Ducrot qui est à côté de moi.
Ouais.
Et il me met un petit coup de coude. Il me dit « Hey, ma louloute !» Parce qu'on s'appelle comme ça. « Ça y est, c'est bon, c'est parti !» Je dis « Mais c'est trompé, non ?» Il dit « Non, c'est l'équipe qui débute contre Lyon, ça
!»
Je dis « Oh, la vache !»
Moment magique.
Et en fait, tout le début de sa causerie, limite, je ne l'ai pas entendu. En fait, j'étais dans un état second. Ouais. Je ne réalisais pas en fait, que j'allais débuter.
Ouais.
Et, Et c'est la première. Donc, match sur une chaîne concurrente qui avait les droits à l'époque.
Mais Ami.
Ouais, Ami. Ça se passe très bien d'ailleurs avec. Et match en prime. La totale à Gerland, Lyon qui tournait plutôt bien.
Mm-hmm.
Nous en difficulté. Donc, une première plutôt délicate. Mais,
vu que c'était une surprise... T'as pas pu faire venir ta famille, tes amis?
Personne. Non. Je ne savais pas.
Tout le monde était devant la télé. Alors.
Ouais, exactement. Okay. Et c'était parti. Et pour te résumer un petit peu la situation, pas d'appréhension particulière, mais une pression. Ouais. Moi qui dis souvent, bon, la pression, oui, je la transforme positivement, mais c'est vrai que c'est pas trop dans ma nature d'avoir la pression.
Mm-hmm.
Mais là, je l'avais, clairement. Parce que j'attendais ce moment depuis longtemps et puis t'es devant le fait accompli. La seule chose à laquelle tu penses, c'est tu te dis, j'ai pas envie de me déchirer et de mettre en difficulté mes partenaires.
Ouais.
C'est juste ça, en fait.
D'accord, 20 ans, 21 ans. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et donc, tu te souviens de, de cette sortie sur la pelouse?
Tout, la totale, l'ambiance. Et tu te dis, ça y est, c'est bon, t'y es, quoi, c'est parti.
Et alors, et le match, qu'est-ce qui revient dans ta tête quand tu penses à ce match?
Au bout de 10 minutes, je pensais que ma carrière allait être finie. Alors, je vais t'expliquer pourquoi.
T'as pas fait encore une bourde? Attends.
Ce qui s'est passé.
Oui.
Marco Grassi, l'attaquant suisse.
Oui, classe.
Ouais. Mm. Qui venait d'arriver, je pense, à l'image de Vikash Dorasso, qui était là aussi.
C'est ça, c'était les nouveaux joueurs.
Ouais. Voilà. Et début de match, un petit peu compliqué. Et là, il y a une action dans la surface où Marco Grassi vient sur moi. Et moi, heureusement, j'ai le réflexe de lever les deux bras et de me décaler et d'avoir vraiment une position de recul. Mais lui vient quand même sur moi chercher le contact et s'écroule dans la surface. Alors qu'il ne maîtrisait plus du tout le ballon.
Ouais.
Et là, je regarde l'arbitre direct, mais j'ai déjà les bras levés. Et je vois l'arbitre qui ne siffle pas.
Mm-hmm.
Donc je me dis, j'ai transpiré. Parce qu'au bout de 10 minutes, tu fais ton premier match, tu crées un pénalty.
Ouais.
Wow.
Et les gars expérimentés, ils cherchent.
Exactement.
Ouais, ouais.
Et en fait, cet épisode passé, après, j'étais dans mon match et ça s'est bien
chaud,
passé.
C'est passé.
Ouais.
Mais j'ai regardé là aussi ce match. Pierre Ducrot, justement, il se fait exclure. Après une demi-heure, 34 minutes.
C'est ça.
Vous êtes à 10.
Dur.
Pas évident.
Je regarde ma louloute. Merci. Pour une première, tu me mets dans les meilleures conditions. C'est pas grave, on va jouer à 10.
Ouais.
On a été solidaires, soudés, à l'image de la semaine qu'on venait de passer à Lesigny.
Mm-hmm.
Et tout s'est bien déroulé, hein, pour le coup. On finit à un but partout, avec un magnifique but de Marco.
Oui, ça, ce but-là, on peut le retrouver sur l'Internet. Je l'ai regardé juste avant de venir te retrouver. Marco Simonet... pas mal de classes. Il y avait Okocha aussi dans cette équipe, sacré joueur.
Okocha, extraordinaire.
Ouais.
C'est l'avantage de jouer dans un gros club. t'as 99% de chances d'évoluer avec de grands joueurs.
Est-ce qu'il fait partie des plus talentueux avec qui tu as joué? Il y a d'autres qui viennent à ton esprit?
Oui, il y en a eu plusieurs. Bah, en fait, en match officiel, je n'ai pas vraiment joué avec eux, mais il est vrai que quand tu as Valdo, Ginola, Wea, tu as la chance de t'entraîner avec eux.
Ouais.
Rai, Ricardo, Roche, bah, enfin, toute cette
fort,
équipe.
Hein, c'est très fort, tout ça.
Plus Leonardo qui arrivait aussi. Enfin, voilà, il y avait. J'ai eu la chance de côtoyer des joueurs à l'entraînement, c'était fabuleux. Et tu apprends en vitesse grand V. Mm. Moi, en un an, même quand j'ai eu mon prêt au Servette, en un an, j'ai plus appris que beaucoup, je pense, sur une carrière, parce que j'avais toujours les petits conseils au bon moment. Et c'est super, super important. Mais c'est vrai que JJ faisait partie de ces joueurs extraordinaires.
Avec ce match contre Lyon, donc la carrière pro est lancée en France. Mais avec le Paris Saint-Germain, ça ne va pas durer éternellement. Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que c'est la chose que l'on ne veut pas souhaiter aux joueurs. Et c'est la pire des craintes, c'est la blessure.
Mm.
Ouais, la blessure. Donc malheureusement, elle arrive trop tôt pour moi. Au moment où je commence à prendre mes marques, à être titulaire au Paris Saint-Germain. Mm. Bah, après une quinzaine de matchs, je me fais les croisés. Donc, ce n'est pas un croisé isolé. J'ai fait croisé, latéral interne, ménisque externe. J'ai tout fracassé. Et ça a été dur.
Mm.
Donc, c'est un gros coup d'arrêt dans une carrière quand t'as 22 ans.
On peut revenir au même niveau après quelque chose comme ça ou est-ce que c'est très compliqué?
Écoute, oui, certains sont revenus au même niveau. Après, on a des corps un peu, on est tous différents, on assimile les choses plus ou moins différemment. Et moi, il est vrai que j'ai jamais récupéré.
Mm.
C'est clair. Mm. J'ai jamais retrouvé une flexion complète. C'était compliqué. J'ai un genou aujourd'hui qui gonfle toujours. Si je veux faire un sport à haute intensité, c'est compliqué parce qu'il gonfle en permanence. Même si je veux faire un footing d'une demi-heure, demain, t'es sûr qu'il est chaud et qu'il gonfle.
Ouais.
Donc, oui, c'était difficile. Mais on dit ne pas avoir de regrets. J'en ai quand même, parce que j'ai eu la sensation de faire une carrière avec l'itinéraire bis par rapport à ce que j'avais comme potentiel.
Mm-hmm.
Ça m'a permis de jouer en Ligue 1.
Oui.
Donc, j'ai joué en Ligue 1, mais sur une jambe.
C'est déjà pas mal alors, d'arriver
mal.
À plus de 300 matchs en pro sur une jambe.
Oui, c'est pas mal.
Tu vois mal. Imagine si tu aurais eu les deux. Ouais.
Bah, ça aurait été, oui. Avec des si, on refait le monde, mais je pense que ça
et on
peut
coupe
être
du bois aussi.
Comment?
Avec des si, on peut couper du bois.
On peut couper des bois.
On va pas rester sur...
T'es bon, David.
Ouais. On va pas rester sur des mauvais souvenirs, parce que ça tombe bien, regardez, le dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Greg. Nous sommes le 17 avril 2004, nous sommes au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue entre Nantes et donc ton club du moment, c'est le FC Sochaux-Montbéliard. Une finale mémorable pour plusieurs raisons. Raconte pourquoi tu as choisi ce match et comment ça se déroule.
Alors, je vais être très succinct. Hein. C'est le seul trophée que j'ai à mon palmarès. Parce que parfois, sur Internet, on m'accorde aussi le trophée des champions 98 et une coupe, je crois. Parce que j'étais dans le groupe. Mm-hmm. Mais pas concerné réellement. Difficile de se l'approprier. Donc, c'est le trophée que j'ai gagné. Alors, ça reste une coupe de la Ligue, certes. Je sais que certains n'ont jamais gagné de quoi que ce soit dans leur carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas anodin. Et puis, ça reste un souvenir mémorable avec un groupe fantastique.
Et c'est le Stade de France aussi.
De surcroît.
Ouais.
Ouais, c'était magique.
Ouais.
Quasiment presque 80 000. On avait fait 79 et quelques.
Fabuleux.
Ouais, c'était une belle affiche. Nantes-Sochaux. Nous étions...
J'ai la feuille de match.
T'as la feuille
devant les yeux. Il y a une belle équipe de Sochaux. Hein, cette époque-là.
Elle était belle.
Ouais, oui, elle est belle. Pour ceux qui se souviennent, Teddy Richer dans le but. Il y a ce Gregory Paisley qui est le numéro 3. Il y a Flachez, Mansoro, il y a Diawara, Suleiman, il y a Orumin, Pedretti, Jérémy Mathieu, Pierre-Alain Fro. Il y avait Mickaël Isabé qui était un peu une légende du club. Et Mickaël Pagis aussi, super classe. Vous aviez un super groupe là.
Oui, ouais. Il y avait Santos aussi.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais, il y avait Yohan Lonfa aussi. Oui, non,
Philippe Rachke. Et puis Guy Lacombe est l'entraîneur. Donc ça se passe comment avec Sochaux pour cette finale contre Nantes alors?
Écoute, plutôt en confiance.
Oui.
Alors, il est vrai que je venais d'arriver, hein, c'était ma première saison à Sochaux. J'y suis resté 2 ans. L'année précédente, ils avaient perdu lourdement face à Monaco, en finale, au Stade de France. Donc, pas forcément un bon souvenir, mais il y avait cet esprit de revanche que tu sentais au sein du groupe. Et puis, ça venait un peu valider notre belle saison, parce qu'on finit 5e.
Ouais, c'est une très belle saison.
On titille beaucoup, beaucoup d'équipes. Je crois qu'on n'avait pas perdu aller-retour contre Monaco, qui avait été en finale de Ligue des Champions. On bat deux fois l'OM. On fait une saison plutôt grosse. Et
donc cette finale, c'est la...
C'est l'apothéose.
The cherry on the cake.
Exactement, hein? C'est l'apothéose.
La cerise sur le gâteau. Un partout.
Ouais.
Et puis, il y a cette séance de tir au but.
Ouais.
Alors, j'ai les buteurs et les tireurs devant moi.
J'y suis pas.
Tu n'y es pas. Alors qu'on arrive quand même, il y a 8 joueurs de chaque côté.
J'étais le 9e.
C'est vrai que tu étais le 9e.
Oui, parce que j'allais...
Tu n'étais pas porté volontaire par rapport à ça.
Tout simplement.
L'ancien attaquant que tu es.
Ouais,
celui qui a marqué un quadruplé sur la pelouse du Parc des Princes.
On oublie vite.
Non, c'est pour une séance de tir au but, là, comme ça, tu vois, tu étais dans quel état d'esprit. Marcel Desailly, par exemple, m'a dit, moi, dès qu'il y a une séance de tir au but, c'est simple, je me cachais.
Il ne voulait jamais tirer. Écoute, perclus de crampe, parce qu'il y a une dernière action à la 120e minute,
oui,
qu'on n'oubliera jamais. Il y a Pillapo et Moldovan qui se gênent, alors que le but est quasiment
oui,
vide.
Oui, oui, je revois cette image.
Et moi, je suis au sol.
Oui, oui.
Je tacle Darocha. D'ailleurs, heureusement que Teddy arrête le ballon et que derrière, il y a encore la possibilité.
Oui.
Et qu'il n'y avait pas la VAR à l'époque.
Oui, oui,
parce que Darocha, je l'ai découpé. Mais je l'ai vraiment découpé. et sur cette action, en fait, j'ai tellement tout mis et je me suis relevé immédiatement pour essayer de gêner Yapiyapo et Moldovan dans le feu de l'action. Et là, une crampe, mais exceptionnelle.
Ah oui.
Une boule derrière.
Oh.
Et j'ai dit, bon, j'espère que c'est fini parce que je ne pouvais plus. Et en fait, il y a le coup de sifflet final.
Oui, ça aurait pu être le but de la victoire, hein, cette
exactement,
action.
Exactement, c'était
ouais.
Fini.
Okay.
Et donc, j'étais perclus de crampes. Mais bon, c'est ce que je disais à beaucoup quand on me rappelle un petit peu cette rencontre.
Ouais.
Si j'avais dû frapper,
ouais,
je pense que j'aurais mis une pointe.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, je pense, ouais.
Ah ouais.
Parce que je n'aurais pas pu faire un geste naturel.
Oh, oh.
Donc, ça aurait été un petit peu marrant, mais ça aurait pu être folklore.
Donc, heureusement que tu n'avais pas à le faire.
C'était mieux comme ça. Ouais, je remercie Teddy.
Et puis, on se souvient, c'est aussi le Panenka
de Mika.
D'Amika Landreau qui n'a pas marché ce coup-là. Évidemment, il le met.
On dit bravo.
C'est mythique. C'est mythique. Parce qu'en plus, c'était pour la victoire.
Ouais.
C'était pour la victoire, mais non. Il a arrêté son geste et c'est effectivement Teddy Richa qui l'arrête. Et finalement, Telomo
rate derrière.
Tire et c'est un arrêt de
Teddy. Ouais.
De Teddy, oui. Pedretti a marqué Pagis, Diawara, Jérémy Mathieu, Pierre Linfro. Tous réussis le tir au but et vous êtes gagnant de cette Coupe de la Ligue. Donc, malgré la crampe et tout ça, comment tu arrives à faire le tour d'honneur? Tu arrives à courir comme
j'ai,
un fou?
Oui, j'ai couru un peu à la Kaiser Soze, hein, pour Usual Suspect, ceux qui connaissent. Mais j'étais comme ça, bancal, mais tellement heureux qu'après, tu oublies les douleurs.
Hein,
mais,
ouais.
Il est vrai que sur le coup...
Quand on gagne quelque chose avec un groupe de joueurs comme ça, forcément, ça crée des liens. Tu as toujours des amis parmi ces joueurs-là?
Oui.
Des gens avec qui tu es en contact encore?
Oui, j'ai eu la chance, grâce à Bein Sport et la CAN, on a eu Soulé Diawara en plateau.
Ouais.
Donc Soulé était là, le Omar Daf avait été invité aussi.
Oui.
Donc voilà, ça, on a toujours des petites étoiles dans les yeux quand on se croise et c'est toujours un plaisir. Mais oui, même si c'est une fois dans l'année, mais en tous les cas, ce trophée nous liera à jamais, quoi qu'il arrive.
Ouais. C'est sympa de finir sur un trophée, une victoire au Stade de France. Là, devant, j'imagine, là, au stade, il y a tout le fan club de Greg Paisley qui est là
exactly.
aussi.
Exactly. Oui, tout le monde était là pour le coup. Ouais.
Ouais.
Ce n'était pas comme à Gerland.
Oui.
T'es sollicité pour avoir un nombre de places incalculable. Mais bon, on a fait le nécessaire et on a rendu les gens heureux. C'était le plus important.
Comment vous avez fêté cette victoire, là?
On est allé dans une boîte parisienne. Je crois que j'ai pris ma première goutte d'alcool à ce moment-là.
Ah oui, c'est vrai?
Ouais.
Tu ne buvais pas?
Non, pas du tout. Je me suis rattrapé depuis.
C'est comme Johnny Wilkinson qui m'avait raconté qu'à lui, il ne buvait jamais. Oui. Mais lorsqu'on gagnait quelque chose en fin de saison, il me dit, mais je ne pouvais pas bouder ce qui se passait autour de moi. Et donc il me disait, je voulais être l'un des voilà.
T'es obligé.
Avec les autres. Donc, il me dit, mais le problème, c'est que parce qu'eux, ils buvaient régulièrement et lui, il buvait jamais. Il dit, après deux bières, j'étais complètement bourré.
T'es cuit complet. Ouais. Le problème, c'est qu'il a gagné pas mal de choses. Ouais. Donc, il a dû en prendre des bières.
Quelques cuites malgré lui. OK, donc tu fais ça en boîte et...
Ouais, et puis après, retour à la normale parce que tu avais une fin de saison à finir. Mais oui, on a su profiter du moment présent. Et ouais, ce sont des souvenirs magiques parce que... Une finale, comme souvent on le dit, ça se joue pas, ça se gagne. Tu retiens que le trophée, en fait.
Ouais.
Parce que la finale en elle-même, on s'attendait à un gros match parce qu'on était deux équipes qui, à la base, fournissaient du beau jeu. Et ça a été complètement verrouillé. Et je pense que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, sur cette finale.
La peur de perdre.
Ouais, sûrement. Mais in fine... Ça ne m'a pas dérangé d'avoir peur de perdre, parce qu'on a gagné.
Vous avez gagné. Oui. La médaille, elle se retrouve où aujourd'hui?
Bah, il y a la réplique de la Coupe de la Ligue,
hein,
oui, qui est sur mon bureau.
D'accord.
Ouais, elle est toujours là, je la vois tous les jours.
Excellent.
Donc oui, ça, tu le gardes.
Le petit sourire, elle est là, il reste là.
Toujours.
Visible.
Toujours.
Formidable. Merci beaucoup, Greg, d'avoir partagé ces matchs, ces moments, ces souvenirs de vie avec nous.
C'est un plaisir.
Formidable.
C'est top.
Et merci beaucoup. Et on te souhaite évidemment plein d'autres matchs mémorables à venir, que ce soit du foot ou bien en golf, parce que tu t'es remis un sport
plus calme.
Ou pour ton genou, c'est mieux. Et apparemment, tu joues très bien.
Je me débrouille.
Ouais.
Un index, c'est un chiffre. Voilà.
Hey,
c'est correct, je m'amuse.
Ça veut dire que tu joues très très bien.
Et
malheureusement, ce n'est pas mon cas du tout. merci encore, Greg, d'avoir partagé ces moments-là avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux à vous. Laissez-nous un mot sur la plateforme où vous nous écoutez et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.